Dumont.
Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
Mario Dumont.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On va vous accompagner pour les deux prochaines heures. Pas mal de choses à vous raconter dans cette journée. Quelques rebondissements en actualité, en politique et en baseball. Salut Vincent.
Salut Mario.
Ou en plus de baseball.
Ou en plus de baseball, parce qu'on comprend que l'histoire de garde partagée, ça n'aura pas lieu, là, des Rays.
Ça aurait été refusé par la Ligue, carrément. Là.
Je trouve qui démontrait peu d'ouverture.
Ouais. Il y en a qui vont dire la Ligue aurait pu parler avant plutôt de laisser passer autant de temps et d'espoir. Mais enfin, et parlant d'espoir, il y avait ce matin cette annonce de Doug Ford de certaines réouvertures, d'un plan de réouverture. Conférence de presse de François Legault à 14h. On s'est demandé, est-ce qu'il va imiter ça? Mais c'était pas le thème, là.
Non, le thème, c'est d'expliquer qu'on est effectivement au pic. C'est ce qui était attendu, là, le pic des hospitalisations. C'est une bonne nouvelle. Par contre, à 3400 hospitalisations, on n'a pas la marge de manœuvre pour pouvoir relâcher en ce moment le C'est le pic de l'Everest. On veut s'assurer que ça baisse avant de pouvoir émettre des relâchements. Ça peut en décevoir plusieurs. Faut dire que l'Ontario, ça se fait à partir du 31 sur plusieurs semaines. Donc, ça veut pas dire que...
Les derniers déconfinements de l'Ontario arrivent dans le mois de mars, là.
Exact. Donc,
je me demande, tu sais, mettons, le 15 novembre, là, on n'avait aucune idée de ce qui allait arriver avec Omicron. Moi, j'aurais de la misère, mettons, à t'annoncer une mesure qui va entrer en vigueur dans 11 ou 12 semaines. Parce que peut-être que ça va baisser aussi vite que ça a monté, puis ça va avoir l'air ridicule à cette date-là de garder ces contraintes-là.
Oui, c'est ce que je pense aussi. Ça veut pas dire que le gouvernement va pas, au Québec, ouvrir les restos avant l'Ontario. C'est pas impossible dans la mesure où l'ouverture se fait très graduellement en Ontario, disant quand même que la situation est encore sérieuse là-bas. Tout comme ici, d'ailleurs.
Mais M. Legault sent-il le besoin de dire « j'ai bien des demandes », mais la réponse pour tout de suite, c'est non. Et on rejoint Julie Marcoux.
15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario.
Bonjour.
Alors, point de presse du premier ministre François Legault. Les attentes étaient très, très élevées puisque un peu plus tôt, en fin d'avant-midi, Doug Ford est venu annoncer un plan de déconfinement. Pas d'annonce en vue pour le Québec, pas d'allègement, mais la lumière est toujours là au bout du tunnel. Vraiment, Mario?
Oui, mais Julie, à flash.
Tu es surpris d'entendre ça?
La lumière au bout du tunnel, la flash. On la voit plus. Regarde, je pense que le but du point de presse de M. Legault aujourd'hui, c'était essentiellement deux choses. D'abord, offrir une sorte de réponse au rapport quand même de la commissaire Castonguay. Là, c'était pas banal hier que la commissaire à la santé et au bien-être soit sévère envers ce qui s'est passé dans les CHSLD, mais plus largement soit sévère envers notre système de santé, la façon dont ça fonctionne, etc. La façon dont on y traite les aînés en général. Donc, M. Legault voulait finalement réitérer sa volonté de réforme, dire que son ministre de la Santé est sur la planche à dessin pour nous proposer des nouvelles façons de faire là, d'ici quelques semaines ou quelques mois. L'autre élément du point de presse, bien plate, je pense que le premier ministre subit énormément de demandes, de pressions, de partout, là, hein, des régions, des maires de son caucus, de la population directement, justement pour ses réouvertures, reprendre le sport, reprendre ceci, reprendre cela. Je pense qu'il voulait dire un double message, là. Je vous entends. Mais la réponse, c'est non. La santé publique nous dit non. La santé publique nous dit qu'à ce moment-ci, on peut pas faire ça. Je pense quand même...
Mais on ne sait pas pour combien de temps encore, c'est non. C'est ça qui doit être tellement difficile pour les restaurateurs et autres commerçants fermés.
Mais je serais optimiste quand même. C'est-à-dire que... Tu sais, l'année passée, là, on a fermé au mois de novembre, on a rouvert au mois de mai. Là, ça a été fermé, quoi, 7 mois plus. On n'est pas là-dedans, là. Je pense que c'est une question... On est plus à compter en quelques semaines. Je sais qu'il y a des restaurateurs quand même bien branchés là, qui rêvent encore d'être ouverts à la Saint-Valentin. Ça me paraît pas farfelu, là. Ça me paraît pas absurde, tu sais. Donc, qui est comme un peu la première grosse fin de semaine, tu sais, parce que le mois de janvier dans les restaurants généralement un peu plus tranquille, là, c'est comme le premier gros moment. Donc, à suivre. Mais aujourd'hui, je pense François Legault voulait dire clairement, voulait qu'on l'entende. Là. Les demandes, là, je suis pas perdu, je suis pas sur une autre planète, je les entends toutes. Mais la réponse, c'est non. Et il s'est un petit peu servi là, de Madame Anglade d'une certaine manière pour dire non à tout le monde en disant, mais là, tu sais, la chef d'opposition nous demande les sports, reprendre les sports, puis on est tous bien d'accord avec elle, puis ses points sont bons. Mais Madame Anglade est la première qui demande l'indépendance de la santé publique, qu'on écoute la santé publique. Puis la santé publique nous dit non, puis elle dit que je devrais pas écouté la santé publique. Bon, pas exactement ça que Mme Anglade a dit, mais comme il l'a utilisé de façon un peu partisane pour passer le message à tout le monde que pour l'instant, la santé publique sent pas l'ouverture. Remarquez que, on va se dire la vérité, on dit on a atteint le pic. C'est vrai, ça a arrêté de monter dans les hôpitaux. Mais le portrait exact qu'on a, Julie, c'est que là, aujourd'hui, ça a baissé. Ça se compte ses doigts de la main. Et c'est expliqué, je veux dire, par les décès. Excusez-moi, là, je sais que c'est casseux de party, mais une partie...
98 décès,
oui. Oui. Et tu sais qu'un décès, ça entre dans la colonne des sorties d'hôpitaux, là. Quand on met, mettons, il y a eu 400 sorties de l'hôpital. Là-dedans, il y a des gens qui ont eu leur congé, puis quelqu'un est venu les chercher avec leur petit sac, puis sont partis à la maison, bien heureux d'être guéris. Il y en a qui sont repartis les pieds par en avant. Là. C'est ça, les sorties d'hôpitaux.
Mais Mario, faut quand même dire que le portrait devrait nous donner davantage de détails sur les décès. Parce que quelqu'un qui meurt, par exemple, d'un accident de voiture et qui est positif à la COVID, mais asymptomatique, on le rentre quand même dans les statistiques COVID-décès.
Oui, oui. On nous le promet, là, qu'on aura. Parce que déjà, on l'a précisé depuis quelques jours, une dizaine de jours, là, pour les hospitalisations. On a ceux qui sont hospitalisés à cause de la COVID, puis on a ceux qui sont hospitalisés puis qui pour d'autres choses, mais qui ont la COVID, et maintenant, c'est séparé. Donc, on a cette information-là. On l'a pas encore pour les décès. On nous dit que ça viendra. On pense qu'on voudrait plus de détails en général aussi pour les décès. Qui sont-ils? On sait déjà, là, on a déjà la distinction de ceux qui vivaient, par exemple, en hébergement, CHSLD et autres. Pour l'instant, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont, oui, plutôt âgés, mais qui vivaient à la maison. Alors, c'est pas drôle. Là. Ils vivaient à la maison. Ce que ça me dit, c'est que c'est pas des gens qui étaient... Ça veut pas dire qu'ils étaient en parfaite santé. Là. On connaît tous des gens âgés qui vivent à la maison avec bon nombre de problèmes de santé, des faiblesses, des maladies qu'ils ont eues dans le passé. T'sais, en vieillissant, on accumule des bobos, c'est normal. Mais s'ils étaient à la maison quand même, c'est qu'ils étaient pas à l'article de la mort. Là. Ils étaient dans une relative bonne forme. T'sais, il y avait une qualité de vie, ils faisaient quelque chose. Et la COVID les a ramassés et les a emportés. Donc c'est un portrait qui est dur et auquel on ne s'attendait plus. Je pense que ça, il faut avoir l'honnêteté de se le dire à nous-mêmes comme population. Là, on avait passé l'automne à vivre avec la COVID. Les cas, c'était quoi? C'était un décès, deux, des journées de zéro. À la fin de la semaine, on en avait quoi, une dizaine, des fois moins. Et là, tout à coup, on revient à plusieurs dizaines, presque aujourd'hui, à la frange de 100 décès dans la journée. Tu sais, là, c'est une période d'un mois, ça veut dire qu'on va avoir quoi? 1500, 1800, 2000 décès. Aïe, aïe, là, c'est une vague, là, tu sais, qui fait très, très, très mal.
Et d'ailleurs, on a dit de la part du premier ministre que le fameux plan de contingent là, pour diminuer la qualité de soins là, n'avait pas été mis en place. Le fait d'avoir autant d'hospitalisations, on est à 3400, de dire on diminuera pas la qualité des soins, mais de toujours maintenir les bars, les gyms, les restaurants fermés. Il n'y a pas un danger à maintenir la ligne dure, Mario, un risque de décrochage ou que les gens, l'engagement des Québécois s'effrite un peu?
Ben, c'est déjà un processus, dont une partie, parce que, tu sais, il y a des gens qui en veulent au virus, là. Ils pensent qu'ils vont, ils vont recommencer à se voir puis ils vont se venger contre le virus, là. Parce qu'ils sont fâchés contre tout et ils disent qu'on n'aurait pas dû avoir, j'entends ça, on n'aurait pas dû avoir cette vague-là. Assez d'accord. c'est comme les gens, comme les gens au lendemain d'un tremblement de terre.
C'est juste Éric
Duhaime, hein? Ouais, c'est ça. Les gens au lendemain d'un tremblement de terre dans un pays qui disent, on n'aurait pas dû l'avoir. D'après moi, ça fait l'unanimité. Tout le monde va être d'accord, on n'aurait pas dû l'avoir, mais une fois que ça arrive, faut que tu vives avec, faut que tu poses les gestes, qui viennent avec. Mais, il reste que, tu te promenais le soir, là, on a bien chialé contre le couvre-feu, mais tu te promenais le soir, il n'y avait plus personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun reste chez eux, ça veut dire qu'il y a moins de contact entre les gens. C'est ça qui fait baisser. Tu sais, à un moment donné, faut garder ça simple. Ce qui fait baisser le nombre de cas, c'est que les gens ont moins de contact entre eux. Là, ce qui est revenu cette semaine comme un grand nombre de contacts, c'est l'école. De facto. Et ça, c'est une décision qu'on a prise. Je pense qu'il représente la volonté de la majorité de la population, la volonté ferme des pédiatres, des parents, de dire les enfants doivent aller à l'école. Mais là, ça, c'est... Je pense que c'est la prochaine chose aussi. Avant d'assouplir, on va vouloir voir un peu l'impact de l'école. Ça prend une dizaine de jours là, après la rentrée. Donc, c'est tout ça qu'on gère. Mais moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je reste optimiste pour ce qui est de la reprise des activités, là. Le restaurant, les gyms, même les salles de spectacle, tout ça. ce sera pas un 7 mois comme l'année passée. Je pense que d'abord, je pense qu'Omicron est arrivé raide, là, à une vitesse complètement folle. Je pense qu'il va repartir quand même plus vite. Là, la courbe de descente va être un peu plus abrupte. Je suis optimiste de ça. C'est ce qu'on semble voir ailleurs. Et compte tenu qu'on a une population vaccinée, compte tenu qu'on a toutes sortes de mesures, le passeport vaccinal, pour encadrer la vie avec le virus, qu'on va pouvoir y revenir beaucoup plus vite que l'an dernier.
Oui, vivement la troisième dose. Les passeports vaccinaux frauduleux, Mario, il y a l'UPAC qui enquête, une dizaine d'enquêtes. As-tu été surpris que le gouvernement n'avait toujours pas révoqué les passeports?
Ça semble être une étape technologique. Franchement, là, je suis pas assez expert. Mm-hmm. Je peux pas me prononcer. Mais ce que je retiens sur tout ça, c'est d'abord, il fallait s'y attendre. Là, je veux dire, dès que tu mets en place une nouvelle affaire, il y a de la fraude. Dans ce cas-ci, on s'est peut-être un petit peu trompé parce qu'on avait comme tous imaginé la fraude en imaginant, là, tu sais, des petits pirates informatiques, des génies qui allaient rentrer dans le système puis se patenter quelque chose. Ouais. Alors que c'est une fraude beaucoup plus classique, là, tu sais, c'est corruption. On donne une pile de cash à un fonctionnaire puis il te rentre ton affaire. Il crée une fausse vaccination que tu n'as pas reçue, puis on te fait un passeport avec ça. Là. Donc, on a peut-être cherché les pirates informatiques trop savants, c'était plus simple, mais c'est triste à dire, hein? c'est l'humain, tu mets en place un nouveau système, quelqu'un essaie de le contourner, de la fraude arrive. Je vais dire une chose, par exemple, Julie. Moi, là, si j'étais à l'UPAC, là, je me dirais, là, en langage de baseball, parlons-en de baseball, parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle sur le front du baseball aujourd'hui,
sujet,
mais en langage de baseball, je l'ai dit ce matin à mon émission, hey, la balle est sur la plate, là. Pour l'UPAC, tu as un dossier d'actualité immédiate. Les gens vivent avec le passeport vaccinal qui touche la santé du monde. Des gens qui ont menacé la santé des autres. Une grosse fraude facile à comprendre, qu'on a en pleine face. On s'entend que pour l'UPAC de nous annoncer qu'ils ont épinglé X personnes pour nous expliquer le processus, puis une belle conférence de presse. Tu dis, faut redorer le blason de l'UPAC, là, qui a eu des procès ratés puis des problèmes. Ils ont toute une occasion, là, de, ils ont pas le droit à l'erreur. Puis il faut pas que ça se termine par une série d'acquittements parce qu'il y a eu vice de procédure, là, on se comprend. Mais une job bien faite, là, où t'épingles une série de fraudeurs du passeport vaccinal, c'est toute une belle job pour redorer son blason, ma chère.
Mario, un mot en terminant sur le projet de baseball à Montréal. Bon, c'est mort, ça semble être mort et enterré. T'étais pour ça, toi? Es-tu étonné, un homme aussi riche que Stephen Bronfman, qui n'a pas pu mettre de l'avant un projet qui aurait été chercher l'acceptabilité sociale, finalement?
Moi, j'étais pour ça, pas à n'importe quel prix. Moi, j'étais pour au moins qu'on montre de l'ouverture. Là. Je comprenais pas qu'on dise, parce que tu sais qu'on aurait été d'accord si ça avait été un projet d'un entrepôt de transport ou un projet de grosse compagnie informatique. Mais parce que ça s'appelle baseball, on dit faut même pas l'étudier, faut même pas le regarder. C'est ça que je comprenais pas. Moi, si c'est rentable, peu importe le secteur économique, si c'est rentable, si c'est bon. En plus, dans ce secteur-là, il y a comme une plus-value parce qu'il y a une visibilité pour la ville puis tout ça. Mais je pensais qu'on devait regarder rationnellement, chiffre à l'appui, le dossier et non pas l'exclure en partant, comme beaucoup de gens semblaient avoir dit. Oui, Stephen Bronfman doit être certainement déçu et choqué. Ce que je comprends pas du baseball, parce que là, c'est... On aura plus d'explications dans les jours à venir, mais c'est le baseball majeur, clairement, qui semble avoir dit non.
Oui.
Ben, moi, si j'étais lui, je serais insulté de dire... Si c'était pour dire non, laisse pas niaiser du monde de même, dépenser des sous...
Ça faisait depuis 2016,
oui. Ben oui, monter des plans, présenter des plans aux autorités, au gouvernement, à la ville, etc., etc., etc. Je comprends pas le baseball majeur, là. Si c'était pour dire... Si, mettons que c'est une affaire qui est pas étudiable, là, je sais pas si le mot existe, c'est une affaire qui est pas... Que tu peux même pas considérer, que t'es même pas prêt à envisager une équipe entre deux villes, ben dis-le en partant. Personne ne va perdre son temps. Donc là, on a laissé l'idée courir pendant une longue période pour finalement dire, ah, ça, c'est pas quelque chose qu'on est prêt à envisager. OK? Donc j'imagine que M. Bronfman doit être extrêmement déçu et choqué de la tournure des événements. Mais bon, pour Montréal, je considère quand même que c'est une mauvaise nouvelle. Là.
Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
Alors Vincent, dans les autres nouvelles, Dominique Anglade là, qui demande formellement le retour des sports pour les jeunes.
Ouais, vous parlez de la pression quand même qui a été reconnue par le premier ministre là, de rouvrir, de relâcher certaines mesures sanitaires. Et il y a des voix qui s'élèvent pour la partie du sport. Là, on sait que le maire de Québec, le nouveau maire Bruno Marchand, s'est élevé pour demander d'une reprise impérative et rapide des sports au Québec. Là, Dominique Anglade, la chef de l'opposition, qui allait dans ce sens. C'est-à-dire, après 2 ans de pandémie, on ne peut plus prétexter la surprise et gérer à coup de fermeture. François Legault doit s'engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux jeunes de demeurer actifs et de faire du sport. François Legault a répondu, d'ailleurs, ça a peut-être amené certaines critiques ou le fait qu'il utilise des points de presse pour faire de la politique, mais il a répliqué à Dominique Anglade là-dessus. Le plan, d'ailleurs, la chef d'un parti d'opposition. Je vous laisse entendre sa réplique aujourd'hui.
J'entendais une chef de l'opposition dire « on a hâte que les jeunes retournent faire du sport ». Écoutez, moi, c'était tellement important dans ma vie, le sport, là, que je suis d'accord avec ça. Mais actuellement, on peut pas d'un côté dire « faut que la santé publique soit indépendante, faut qu'on écoute les recommandations indépendantes de la santé publique, mais quand ça fait pas notre affaire, ben on les écoute pas ».
Mais c'est sur ça, là. Mais ça s'adresse pas juste à Dominique Anglade, ça s'adresse à toute la société, là, à des journalistes. On entend ça tout le temps, des gens qui disent « Ah, faut écouter la santé publique, ça c'est sacré, c'est la science, c'est la santé publique ». De la minute, ça fait pas leur affaire. La santé publique, ils se trompent, ils ont pas raison, faut pas les écouter.
Oui, c'est ça qu'on va réclamer, les avis de la santé publique surtout. Mais là, l'avis est clair sur le fait qu'on ne doit pas relâcher les mesures. Enrico Ciccone, le porte-parole en matière de sport, qui disait aussi là être inquiet, les jeunes qui délaissent le sport, la santé mentale. Alors, est-ce qu'on pourra déconfiner rapidement le sport? Du moins pas aujourd'hui.
Mais tu sais que durant le temps des fêtes, j'ai eu toute une réflexion sur l'opposition. Puis je voyais, mettons, au Nouveau-Brunswick, là, t'as un parti d'opposition qui demande un resserrement des mesures, plus de mesures pour protéger la population. Et je me disais, au Québec, on a quand même... j'oublie le Parti conservateur qui, lui, est contre toutes les mesures. Je le mets de côté, lui, sa position est claire là-dessus. Mais les 3 autres partis d'opposition ont toujours été quand même plus de ce côté-là, là. C'est-à-dire moins de mesures, il faut reprendre, de la minute, le nombre de cas baissait, pour ouvrir les...
Avec hésitation, mais ils ont été telle mesure, faudrait l'enlever, couvre-feu,
et jamais,
ça vaut rien.
Jamais, aucun des 3 partis d'opposition à l'Assemblée nationale a martelé de dire, faut être plus sévère, faut faire attention, faut protéger la santé. Et je me disais, dans le temps des fêtes, peut-être qu'il y en a un qui l'avait fait. Peut-être que le PQ avait décidé au départ, nous autres, on prend le parti, là, de la santé publique, puis de la protection de la santé. T'es-tu conscient du nombre de points qu'il aurait marqué? Parce que d'abord, 5 vagues, là, 5 fois le virus a été plus vite que prévu, plus grave que prévu, nous a mis dans la merde, on n'était pas tout à fait prêts. Tout le temps, là. Depuis 2 ans, Vincent. Mettons un parti qui aurait commencé en février 2020, là, à lancer des avertissements. Là. Attention, attention au CHSLD, attention à ceci. Hey, on les aurait réinvités. À chaque vague, on les aurait réinvités dans le mois d'après en disant, mais hey, vous aviez vu venir, ça aurait été le premier porte-parole qu'on aurait voulu sur nos plateaux. Il y aurait eu l'air des gens là, d'une sagesse.
Faut pas relâcher les mesures trop. Alors que souvent, veut pas les conférences de presse de relâchement de mesures, c'était la fête au village. C'est un parti là qui
va à l'encontre de ça,
ça casse le party. Donc, le paiement, il vient plus tard. Là.
C'est ça. Le jour même, t'as vraiment l'air du party pooper. Là,
oui,
tu casses
exactement.
Le party. Mais 2 mois après, 3 mois après, là, t'aurais tellement de tranches de la population qui finirait par se dire à la longue, mais voilà un parti qui a de la sagesse, de la vision, qui se laisse pas emporter, qui veut protéger la santé. Je dis pas que ça plairait à tous, là.
Non.
Mais se serait démarqué. Il y aurait eu un temps d'antenne. Pense-y, il y aurait eu un temps d'antenne fou. Il aurait été maintes fois invité sur des plateaux comme... des gens d'une sagesse exceptionnelle, mais personne ne l'a fait.
T'as raison.
Tout ce champ-là est resté libre.
On entend beaucoup le terme « apprendre à vivre avec le virus », mais apprendre à vivre, c'est justement apprendre ça à comment éviter de retomber dans le trou en retirant, par exemple, des mesures trop hâtivement. Apprendre à vivre, c'est justement trouver l'équilibre pour éviter de se promener en yo-yo là, et de tout vouloir relâcher dès que ça va un petit peu mieux. T'as raison que là-dessus, il y a peu d'alerte des partis d'opposition.
Non, non. Fait que François Legault a eu tous les partis d'opposition comme du même côté, là, tout le temps. T'sais, pas tout de la même manière, pas avec le même ton, mais de la minute, là, pense-y, de la minute le nombre de cas baissait un petit peu, tous les partis d'opposition, ils disaient le sport, l'autre disait les restaurants, l'autre disait les théâtres, la culture, là, t'sais? Mais tout le monde demandait la reprise des activités le plus vite possible.
Mais s'il y a quand même les agressifs anti-mesures, il y en a quand même plusieurs, t'as pas nécessairement le goût de t'embarquer là-dedans pour plusieurs, on va s'en sauver, on va être un petit peu
de
la CAQ, puis ça va aller bien.
C'est sûr qu'il y a probablement un petit peu de ça. Finalement, une nouvelle vite, là, des tests rapides dans les écoles. J'avais justement le président des comités de parents du Québec qui me disait ce matin, toute la stratégie est basée sur les tests rapides, mais on n'en a pas. Ben, on en aura.
On en aura, et ce plus rapidement que prévu. On devait distribuer le 3,6 millions de tests rapides sur 2 semaines après la rentrée en présentiel. Finalement, dans les prochains jours, ce serait réglé selon le cabinet du ministre de l'Éducation. D'ailleurs, à plusieurs endroits, ce serait déjà fait, là. On dit que toutes les doses ont quitté l'entrepôt hier soir. La livraison sera complétée dans les prochaines heures, au plus long dans les prochains jours pour certains. C'est qu'on promet 5 autotests, une boîte de 5 par pour chaque élève, faut rappeler, du primaire. L'opération qui sera renouvelée en février. Beaucoup de parents qui attendent ça. Alors, c'est une bonne nouvelle. Au moins que ça se fera rapidement dans les prochains jours.
Tu sais que moi, j'ai pas encore les miens, là, de la pharmacie, là.
Les as-tu commandé? Comment ça marche?
Je suis allé sur le site Internet une couple de fois d'une des pharmacies qui émet sur Internet. Ça me dit toujours aucun disponible. Je suis peut-être pas allé aux bonnes heures. Tu sais, je vais pas essayer de te faire croire que depuis le mois de janvier,
t'es là tous les matins,
je vis à temps plein pour ça, puis je suis là tous les matins faire le piquette. Je travaille, j'ai une vie active, je n'ai pas dessus la tête, mais je suis à la pharmacie une couple de fois. Marie-Claude, t'es à la pharmacie une couple de fois. On le demande. Tu sais, on y va. En avez-vous? Non. T'es à plus qu'une pharmacie. Marie-Claude, t'es à d'autres pharmacies.
Parce qu'on le limite à un paquet de 5 par mois. Donc, on est supposé atteindre le niveau où t'arrives pour aller chercher ton paquet de 5 à tous les mois, puis qui est là. Mais on n'y est clairement pas.
Moi, j'étais un mois en retard, là.